Chapitre 4 Dieu fait les dénouements. Donc, en 1823, le duc de Langeais mort, sa femme était libre. Antoinette de Navarreins vivait consumée par l'amour sur un banc de la Méditerranée. Mais le pape pouvait casser les vœux de la sœur Thérèse. Le bonheur acheté par tant d'amour pouvait éclore pour les deux amants. Ses pensées firent voler Montriveau de Cadix à Marseille, de Marseille à Paris. Quelques mois après son arrivée en France, un brick de commerce, armé en guerre, partit du port de Marseille et fit route vers l'Espagne. Ce bâtiment était frété par plusieurs hommes de distinction, presque tous français, qui, épris de la belle passion pour l'Orient, voulaient en visiter les contrées. Les grandes connaissances de Montriveau sur les mœurs de ces pays en faisaient un précieux compagnon de voyage pour ces personnes qui le prièrent d'être des leurs. Et il y consentit. Le ministre de la guerre le nomma lieutenant-général et le mit au comité d'artillerie pour lui faciliter cette partie de plaisir. Le brick s'arrêta, 24 heures après son départ, au nord-ouest d'une île en vue des côtes d'Espagne. Le bâtiment avait été choisi à ses fins de carène, assez léger de mâture pour qu'il pût, sans danger, s'ancrer à une demi-lieue environ des récifs qui, de ce côté, défendaient sûrement l'abordage de l'île. Si des barques ou des habitants apercevaient le brick dans ce mouillage, ils ne pouvaient d'abord en concevoir aucune inquiétude. Puis il fut facile d'en justifier aussitôt le stationnement. Avant d'arriver en vue de l'île, Montriveau fit arborer le pavillon des États-Unis. Les matelots engagés pour le service du bâtiment étaient américains et ne parlaient que la langue anglaise. L'un des compagnons de M. de Montriveau les embarqua tous sur une chaloupe et les amena dans une auberge de la petite ville, où il les maintint à une hauteur d'ivresse qui ne leur laissa pas la langue libre. Puis il dit que le brick était monté par des chercheurs de trésors, gens connus aux États-Unis pour leur fanatisme, et dont un des écrivains de ce pays a écrit l'histoire. Ainsi la présence du vaisseau dans les récifs fut suffisamment expliquée. Les armateurs et les passagers y cherchaient, dit le prétendu contremaître des matelots, les débris d'un galion échoué en 1778, avec les trésors envoyés du Mexique. Les aubergistes et les autorités du pays n'en demandèrent pas davantage. Armand et les amis dévoués qui le secondaient dans sa difficile entreprise pensèrent tout d'abord que ni la ruse ni la force ne pouvaient faire réussir la délivrance ou l'enlèvement de la sœur Thérèse du côté de la petite ville. Alors, d'un commun accord, ces hommes d'audace résolurent d'attaquer le taureau par les cornes. Ils voulurent se frayer un chemin jusqu'au couvent par les lieux mêmes où tout accès y semblait impraticable et de vaincre la nature comme le général Lamarque l'avait vaincu à l'assaut de Capré. En cette circonstance, les tables de granit taillées à pic au bout de l'île leur offraient moins de prise que celles de Capré n'en avaient offert à Montriveau, qui fut de cette incroyable expédition, et les nonnes lui semblaient plus redoutables que ne le fut Sir Hendon Low. Enlever la duchesse avec fracas couvrait ses hommes de honte. Autant aurait valu faire le siège de la ville, du couvent, et ne pas laisser un seul témoin de leur victoire à la manière des pirates. Pour eux, cette entreprise n'avait donc que deux faces. Ou quelque incendie, quelque fait d'armes qui effraya l'Europe en y laissant ignorer la raison du crime, ou quelque enlèvement aérien mystérieux qui persuada aux nonnes que le diable leur avait rendu visite. Ce dernier parti triompha dans le conseil secret tenu à Paris avant le départ. Puis, tout avait été prévu pour le succès d'une entreprise qui offrait à ces hommes blasés des plaisirs de Paris un véritable amusement. Une espèce de pirogue d'une excessive légèreté, fabriquée à Marseille d'après un modèle malais, permit de naviguer dans les récifs jusqu'à l'endroit où il cessait d'être praticable. Deux cordes en fil de fer, tendues parallèlement à une distance de quelques pieds sur des inclinaisons inverses et sur lesquelles devaient glisser les paniers également en fil de fer, servirent de pont. Comme en Chine, pour aller d'un rocher à l'autre, les écueils furent ainsi unis les uns aux autres par un système de cordes et de paniers qui ressemblait à ces fils sur lesquels voyagent certaines araignées et par lesquels elles enveloppent un arbre. Œuvre d'instinct que les Chinois, ce peuple essentiellement imitateur, à copier les premiers, historiquement parlant. Ni les lames, ni les caprices de la mer ne pouvaient déranger ces fragiles constructions. Les cordes avaient assez de jeu pour offrir aux fureurs des vagues cette courbure étudiée par un ingénieur, feu Cachin, l'immortel créateur du pont de Cherbourg, la ligne savante au-delà de laquelle cesse le pouvoir de l'eau courroucée. Courbe établie d'après une loi dérobée au secret de la nature par le génie de l'observation qui est presque tout le génie humain. Les compagnons de M. de Montriveau étaient seuls sur ce vaisseau. Les yeux de l'homme ne pouvaient arriver jusqu'à eux. Les meilleures longues-vues braquées du haut des tillacs par les marins, des bâtiments à leur passage, n'eussent laissé découvrir ni les cordes pendues dans les récifs, ni les hommes cachés dans les rochers. Après 11 jours de travaux préparatoires, ces 13 démons humains arrivèrent au pied du promontoire élevé d'une trentaine de toises au-dessus de la mer, bloc aussi difficile à gravir par des hommes qu'il peut l'être à une souris de grimper sur les contours polis du ventre en porcelaine d'un vase uni. Cette table de granit était heureusement fendue. Sa fissure, dont les deux lèvres avaient la roideur de la ligne droite, permit d'attacher, à un pied de distance, de gros coins de bois dans lesquels ces hardis travailleurs enfoncèrent des crampons de fer. Ces crampons, préparés à l'avance, étaient terminés par une palette trouée sur laquelle ils fixèrent une marche faite avec une planche de sapin extrêmement légère, qui venait s'adapter aux entailles d'un mât aussi haut que le promontoire et qui fut assujetti dans le roc au bas de la grève. Avec une habileté digne de ces hommes d'exécution, l'un d'eux, profond mathématicien, avait calculé l'angle nécessaire pour écarter graduellement les marches en haut et en bas du mât, de manière à placer dans son milieu le pont à partir duquel les marches de la partie supérieure gagnaient en éventail le haut du rocher. Figure également représentée, mais en sens inverse, par les marches d'en bas. Cet escalier d'une légèreté miraculeuse et d'une solidité parfaite coûta 22 jours de travail. Un briquet phosphorique, une nuit et le ressac de la mer suffisaient à en faire disparaître éternellement les traces. Ainsi, nulle indiscrétion n'était possible et nulle recherche contre les violateurs du couvent ne pouvait avoir de succès. Sur le haut du rocher se trouvait une plateforme bordée de tous côtés par le précipice taillé à pic. Les 13 inconnus, en examinant le terrain avec leurs lunettes en haut de la hune, s'étaient assurés que, malgré quelques aspérités, ils pourraient facilement arriver au jardin du couvent dont les arbres suffisamment touffus offraient de sûrs abris. Là, sans doute, ils devaient ultérieurement décider par quels moyens se consommerait le rapt de la religieuse. Après de si grands efforts, ils ne voulurent pas compromettre le succès de leur entreprise en risquant d'être aperçus et furent obligés d'attendre que le dernier quartier de la lune expirât. Montriveau resta pendant 2 nuits, enveloppé dans son manteau, couché sur le roc. Les chants du soir et ceux du matin lui causèrent d'inexprimables délices. Il alla jusqu'au mur pour pouvoir entendre la musique des orgues et s'efforça de distinguer une voix dans cette masse de voix. Mais malgré le silence, l'espace ne laissait parvenir à ses oreilles que l'effet confus de la musique. C'étaient de suaves harmonies où les défauts de l'exécution ne se faisaient plus sentir, et d'où la pure pensée de l'art se dégageait en se communiquant à l'âme, sans lui demander ni les efforts de l'attention, ni les fatigues de l'entendement. Terrible souvenir pour Armand, dont l'amour reflorissait tout entier dans cette brise de musique où il voulut trouver d'aériennes promesses de bonheur. Le lendemain de la dernière nuit, il descendit avant le lever du soleil, après être resté, et durant plusieurs heures, les yeux attachés sur la fenêtre d'une cellule sans grille. Les grilles n'étaient pas nécessaires au-dessus de ces abîmes. Il avait vu de la lumière pendant toute la nuit. Or cet instinct du cœur, qui trompe aussi souvent qu'il dit vrai, lui avait crié « Elle est là !»« Elle est certainement là, et demain je l'aurai !» se dit-il, en mêlant de joyeuses pensées au tintement d'une cloche qui sonnait lentement. Étrange bizarrerie du cœur. Il aimait avec plus de passion la religieuse dépérie dans les élancements de l'amour, consumée par les larmes, les jeûnes, les veilles et les prières, la femme de 29 ans fortement éprouvée, qu'il n'avait aimé la jeune fille légère, la femme de 24 ans, la sylphide. Mais les hommes d'âme vigoureuse n'ont-ils pas un penchant qui les entraîne vers les sublimes expressions que de nobles malheurs ou d'impétueux mouvements de pensée ont gravés sur le visage d'une femme? La beauté d'une femme endolorie n'est-elle pas la plus attachante de toutes Pour les hommes qui se sentent au cœur un trésor inépuisable de consolation et de tendresse à répandre sur une créature gracieuse de faiblesse et forte par le sentiment. La beauté fraîche, colorée, unie, le joli en un mot, et l'attrait vulgaire auquel se prend la médiocrité. Montriveau devait aimer ces visages où l'amour se réveille au milieu des plis de la douleur et des ruines de la mélancolie. Un amant ne fait-il pas alors saillir à la voix de ses puissants désirs un être tout nouveau, jeune, palpitant, qui brise pour lui seul une enveloppe belle pour lui, détruite pour le monde? Ne possède-t-il pas deux femmes, celle qui se présente aux autres, pâle, décolorée, triste, puis celle du cœur que personne ne voit, un ange qui comprend la vie par le sentiment et ne paraît dans toute sa gloire que pour les solennités de l'amour? Avant de quitter son poste, le général entendit les faibles accords qui partaient de cette cellule, douce voix pleine de tendresse. En revenant sous le rocher au bas duquel se tenaient ses amis, il leur dit en quelques mots, empreint de cette passion communicative, quoique discrète, dont les hommes respectent toujours l'expression grandiose, que jamais en sa vie il n'avait éprouvé de si captivante félicité. Le lendemain soir, 11 compagnons dévoués se hissèrent dans l'ombre en haut de ces rochers, ayant chacun sur eux un poignard, une provision de chocolat et tous les instruments que comporte le métier des voleurs. Arrivés au mur d'enceinte, ils le franchirent au moyen d'échelles qu'ils avaient fabriquées et se trouvèrent dans le cimetière du couvent. Montriveau reconnut et la longue galerie voûtée par laquelle il était venu naguère au parloir et les fenêtres de cette salle. Sur le champ, son plan fut fait et adopté. S'ouvrir un passage par la fenêtre de ce parloir qui en éclairait la partie affectée aux carmélites, pénétrer dans les corridors, voir si les noms étaient inscrits sur chaque cellule, aller à celle de la sœur Thérèse, y surprendre et bâillonner la religieuse pendant son sommeil, la lier et l'enlever, toutes ces parties du programme étaient faciles pour des hommes qui, à l'audace, à l'adresse des forçats, joignaient les connaissances particulières aux gens du monde et auxquels il était indifférent de donner un coup de poignard pour acheter le silence. La grille de la fenêtre fut sciée en 2 heures. 3 hommes se mirent en faction au dehors et 2 autres restèrent dans le parloir. Le reste, pieds nus, se posta de distance en distance à travers le cloître où s'engagea Montriveau, caché derrière un jeune homme. Le plus adroit d'entre eux, Henri de Marsay, qui, par prudence, s'était vêtu d'un costume de carmélite absolument semblable à celui du couvent. L'horloge sonna 3 heures quand la fausse religieuse et Montriveau parvinrent au dortoir. Ils eurent bientôt reconnu la situation des cellules, puis, n'entendant aucun bruit, ils lurent, à l'aide d'une lanterne sourde, les noms heureusement écrits sur chaque porte, et accompagnés de ces devises mystiques, de ces portraits de saints ou de saintes que chaque religieuse inscrit en forme d'épigraphe sur le nouveau rôle de sa vie et où elle révèle sa dernière pensée. Montriveau lut cette inscription. « Sub in vocatione sanctae matris Theresae ». La devise était « Adoremus in aeternum ». Tout à coup, son compagnon lui mit la main sur l'épaule et lui fit voir une vive lueur qui éclairait les dalles du corridor par la fente de la porte. En ce moment, Monsieur de Ronquerolles les rejoignit. « Toutes les religieuses sont à l'église et commencent l'office des morts, » dit-il. « Je reste, » répondit Montriveau. « Repliez-vous dans le parloir et fermez la porte de ce corridor. » Il rentra vivement en se faisant précéder de la fausse religieuse qui rabattit son voile. Ils virent alors, dans l'antichambre de la cellule, la duchesse morte, posée à terre sur le plancher de son lit et éclairée par 2 cierges. Ni Montriveau ni de Marsay ne dirent une parole, ne jetèrent un cri. Mais ils se regardèrent. Puis le général fit un signe qui voulait dire « Emportons-la ». « Sauvez-vous ! » cria Ronquerolles. « La procession des religieuses se met en marche. Vous allez être surpris. » Avec la rapidité magique que communique au mouvement un extrême désir, la morte fut apportée dans le parloir, passée par la fenêtre et transportée au pied des murs, au moment où l'abbesse, suivie des religieuses, arrivait pour prendre le corps de la sœur Thérèse. La sœur chargée de garder la morte avait eu l'imprudence de fouiller dans sa chambre pour en connaître les secrets et s'était si fort occupée à cette recherche qu'elle n'entendit rien et sortait épouvantée de ne plus trouver le corps. Avant que ces femmes stupéfiées n'eussent la pensée de faire des recherches, la duchesse avait été descendue par une corde en bas des rochers, et les compagnons de Montriveau avaient détruit leur ouvrage. À 9 heures du matin, nulle trace n'existait ni de l'escalier, ni des ponts de corde. Le corps de la sœur Thérèse était à bord. Le brick vint au port embarquer ses matelots et disparut dans la journée. Montriveau resta seul dans sa cabine avec Antoinette de Navarreins, dont, pendant quelques heures, le visage resplendit complaisamment pour lui des sublimes beautés dues au calme particulier que prête la mort à nos dépouilles mortelles. « Ah ça !» dit Ronquerolles à Montriveau quand celui-ci reparut sur le tillac. « C'était une femme. Maintenant, ce n'est rien. Attachons un boulet à chacun de ses pieds et jetons-la dans la mer. Et n'y pense plus que comme nous pensons à un livre lu pendant notre enfance. » « Oui, » dit Montriveau, « car ce n'est plus qu'un poème. Te voilà sage. Désormais, aie des passions, mais de l'amour. Il faut savoir le bien placer, et il n'y a que le dernier homme d'une femme qui satisfasse le premier amour d'un homme. » Genève, auprès l'évêque, 26 janvier 1834.